Il y a le lien que nous allons mettre en description de l'émission. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller écouter Manœuvre qui s'écoute très facilement un peu partout. Mmh. Merci beaucoup Lisa.
Merci Jean-Philippe.
Merci à vous chers auditeurs et chères auditrices. Vous le savez peut-être, mais vous avez un impact énorme avec un petit like et un petit commentaire. Alors n'oubliez pas de liker cet épisode et pour manipuler les algorithmes avec ces petits gestes. C'est une manière de nous récompenser pour notre travail. Ça propage les contenus plus loin et ça fait toujours plaisir. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et puis à bientôt.
Cause Commune, causecommune.fm.
Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous utilisez sans doute VLC, le lecteur multimédia au logo à la forme de cône de chantier. Mais savez-vous que c'est un logiciel libre ? Connaissez-vous l'histoire de ce logiciel, son fonctionnement, son mode de développement ? Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la première chronique de Tiphaine Bonnet sur l'open data et la réutilisation des données publiques. Et aussi en fin d'émission la chronique de Vincent Calam qui rendra hommage au copier-coller. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 septembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Avant de commencer le premier sujet, nous allons vous proposer un petit quiz. Et oui, c'est le retour du quiz. Je vous donnerai la réponse en fin d'émission, mais peut-être trouverez-vous avant. Vous pouvez proposer des réponses sur le salon web de la radio, je rappelle, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. La question est, dans sa chronique en fin d'émission, Vincent Calam va rendre hommage au copier-coller, qui permet par exemple de copier des données d'un endroit à un autre en informatique. Savez-vous quel est le lien possible de cette pratique avec le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson ? Allez, si vous trouvez la réponse, vous venez sur causecommune.fm, bouton de chat, libre à vous. On va commencer par le premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons. Chronique proposée jusqu'à présent par Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Et pour cette nouvelle saison de Libre à vous, la chronique sera également assurée par Tiphaine Bonnet, avocate elle aussi au cabinet Dune, que nous avons donc le plaisir d'accueillir pour la première fois au studio. Bonjour Tiphaine.
Bonjour.
Alors elle est prête, elle va nous parler aujourd'hui d'open data et de données publiques. Je lui passe la parole.
Bonjour à toutes et à tous, merci Fred pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'open data et de la réutilisation des données publiques. Donc l'open data, qu'est-ce que c'est ? L'open data est un mouvement d'ouverture et de mise à disposition des données produites et collectées par les services publics, donc tels que les administrations ou les collectivités locales. Le mouvement de l'open data en France a connu ses premières origines grâce à une directive européenne de 2003 qui concernait la réutilisation des informations du secteur public. et elle s'est traduite par une ordonnance en 2005 qui reconnaissait la liberté des citoyens d'accéder aux documents administratifs et le droit de réutiliser ces documents. À l'origine, cette ordonnance n'imposait pas de publier de manière proactive des informations, mais reconnaissait simplement le droit d'en obtenir communication, sous quelque forme que ce soit ou quel que soit leur support. Le mouvement de l'open data s'est ensuite accéléré en France par l'adoption en 2016 de la loi pour une république numérique, qui a consacré l'ouverture des données publiques par défaut. Je vous expliquerai donc brièvement le cadre juridique de la mise en ligne des données publiques, puis les règles qui sont liées à la réutilisation de ces données. Le cadre juridique de la mise en ligne des données publiques est posé par le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA. Depuis 2016, les administrations qui emploient plus de 50 personnes et les collectivités territoriales qui ont plus de 3500 habitants ont l'obligation de publier par défaut certaines données et certains codes sources. Donc il va s'agir notamment des bases de données qui sont produites ou reçues par les administrations, mais aussi des données dont la publication va présenter un certain intérêt économique, social, sanitaire ou encore environnemental. Donc on y retrouve par exemple les données de qualité de l'air ou encore les données géographiques ou les données qui ont été liées par exemple à l'épidémie de Covid-19. Le site data.gouv.fr, lui, recense et donne accès aux différents jeux de données publiques qui sont publiés par les administrations. On va y retrouver, par exemple, toutes les notifications de violations de données personnelles qui ont été réalisées auprès de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais on peut aussi y retrouver toutes les marques qui ont été déposées en 2020 auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. La mise en ligne des données publiques, elle peut également résulter d'une personne privée, puisqu'en fait, toute personne, vous comme moi, pouvons demander à accéder à des documents administratifs, et à ce titre, on peut demander à l'administration qu'elle procède à la publication en ligne de ces documents. Le droit d'accès aux données publiques va s'accompagner du droit de réutiliser les données publiques, et donc là, il s'agit du droit pour toute personne, donc toute personne physique, toute personne morale, c'est-à-dire les sociétés, ou encore toute personne publique, d'utiliser les données à des fins commerciales ou non, et pour un objectif autre que celui pour lequel les documents administratifs ont été produits. Le CRPA prévoit donc une réutilisation des informations publiques qui figurent dans ces documents. Et pour faciliter cette réutilisation, il est prévu que l'administration met à disposition gratuitement ces données. Donc le principe, c'est la gratuité, mais évidemment il y a une exception. Et parfois, les administrations peuvent mettre à disposition à titre onéreux les données qu'elles vont produire, mais seulement dans le cas où elle est tenue de couvrir une part des coûts liés à sa mission de service public. Lorsque les administrations diffusent des données à titre gratuit, elles ne sont pas obligées de les mettre sous licence. Dans ce cas, c'est très simple, l'utilisateur peut les utiliser à condition de ne pas altérer l'information publique, de ne pas dénaturer cette information, et enfin de mentionner les sources et les dates de dernière mise à jour. L'administration peut également choisir de diffuser les données publiques sous une licence, donc c'est conseillé lorsqu'elle met à disposition les données à titre gratuit, mais en revanche c'est obligatoire lorsqu'elle met à disposition les données à titre onéreux. Donc dans ce cas, l'administration peut choisir une licence ouverte. C'est strictement encadré. Un décret liste les différentes licences libres que l'administration peut utiliser. La première, c'est la licence ouverte de réutilisation des informations publiques de l'État. C'est une licence qui est très permissive puisqu'elle permet à l'utilisateur d'utiliser les données soumises à la licence à des fins commerciales ou non dans le monde entier et à condition seulement de mentionner la paternité de l'information. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir indiquer la source de l'information et sa date de dernière mise à jour. Ça peut être fait très facilement, par exemple en utilisant un lien hypertexte qui renvoie à la source de l'information. Ensuite, l'administration peut choisir d'utiliser l'Open Database License, l'ODBL, qui elle est une licence un petit peu plus compliquée puisque c'est une licence de partage à l'identique. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut réutiliser les données sous licence OBDL à condition d'inclure une copie de la licence dans la base de données, d'indiquer l'auteur de la base de données sous licence ODBL, et ensuite de partager les données dérivées sous la même licence. Donc cela signifie qu'en fait, toute personne qui a enrichi une base de données initiale sous licence ODBL avec d'autres données doit redistribuer cette base de données dérivée sous la même licence si elle en a fait une réutilisation publique. Les administrations, si elles ne souhaitent pas utiliser une de ces deux licences, peuvent choisir de faire homologuer leur propre licence. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand vous choisissez d'utiliser un jeu de données publié sous licence libre, de regarder la licence, puisque par exemple, l'INPI a fait homologuer ses propres licences pour les différents jeux de données qu'elle a, et ces licences-là prévoient de respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers. Donc ça veut dire que si vous souhaitez utiliser les bases de données de l'INPI, il faut obtenir les autorisations dont vous pourrez avoir besoin auprès des tiers pour utiliser ces données. Enfin, La réutilisation des données publiques suppose aussi de s'assurer du respect du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et liberté, puisqu'il existe de nombreux jeux de données qui peuvent comporter des données à caractère personnel, et notamment des données permettant d'identifier indirectement une personne. Donc ça, c'est par exemple le cas du fichier de demande de valeur foncière de la Direction Générale des Finances Publiques. C'est un fichier dans lequel on retrouve un peu l'historique des transactions sur les biens immobiliers. Et dans ce cas, le réutilisateur des données publiques devient responsable du traitement. Et donc, il faut être assez vigilant avec l'utilisation de ces fichiers, puisqu'il convient de faire attention à ce que l'utilisation des données soit licite. Donc, le traitement de données doit être fondé sur une base légale. Ça peut être le consentement d'une personne, l'exécution d'une mission d'intérêt public, ou encore l'intérêt légitime qui est poursuivi par le responsable de traitement. Donc, attention, puisque dans ce cas, il convient de vérifier que les droits et libertés des personnes concernées ne prévalent pas sur les intérêts du responsable du traitement. C'est un petit peu difficile à évaluer. Ensuite, il faut s'assurer que la finalité d'utilisation des données soit légitime. Donc là, la CNIL précise qu'il faut être vigilant puisque le traitement qui va être mis en œuvre ne doit pas aboutir à un degré d'identification des personnes concernées plus important que les données qui sont contenues dans le fichier. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez un fichier qui est mis sous licence libre d'une administration, il ne faut pas essayer d'identifier les personnes dont les données sont contenues dans ce fichier. Ensuite, seules les données pertinentes et à jour doivent être utilisées. Et enfin, il faut s'assurer que la réutilisation des données est réalisée en toute transparence, c'est-à-dire que si vous mettez à disposition une base de données dérivée d'une base de données d'une administration, il faudra l'accompagner d'une information générale sur le traitement des données à caractère personnel qui peut être effectuée via cette base de données. Donc, par exemple, il y a un exemple sur le site data.gouv.fr sur le fichier de demande de valeur foncière des finances publiques. Il est accompagné d'une note d'information générale pour toute personne pour savoir quelles sont les données qui sont à l'intérieur de ce fichier et comment il convient de les traiter. Et en conclusion, je dirais que le mouvement de l'open data est en constante évolution et qu'il faut être vigilant puisqu'en 2019, on a une nouvelle directive européenne sur l'open data qui n'a pas encore été transposée en France, donc on l'attend avec impatience, puisqu'elle prévoit une obligation un peu plus large pour les administrations de mettre à disposition certaines informations publiques, puisque certaines entreprises publiques ou les entreprises privées qui sont investies d'une mission de service public devront elles aussi rendre librement réutilisables leurs données publiques fournies dans le cadre d'un service public. Donc par exemple, il va s'agir des données des musées ou alors des données des bibliothèques. Mais pour ça, on va attendre la transposition en France pour en savoir plus.
Bah écoute, merci Tiffaine, puis on attendra aussi que la transposition rajoute généralement des restrictions, on l'a vu dans d'autres projets de loi, notamment sur ces sujets-là. Je vais juste préciser quelques petits points sur l'ODBL, l'Open Database License. Tu as expliqué qu'effectivement c'est du partage dans les mêmes conditions, ça se rapproche en fait des licences libres logicielles du type copyleft, ce qu'on appelle la gauche d'auteur, et si vous voulez en savoir plus, on a abordé ce sujet spécifiquement au logiciel libre dans l'émission numéro 24 du 7 mai 2019, donc vous retrouverez le podcast sur libreavoue.org/24 avec Olivier Hugo, avocat au cabinet d'une, et Mélanie Clément-Fontaine qui est toujours, je pense, directrice du laboratoire de recherche droit et affaires des nouvelles technologies à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je vais rappeler donc que sur le site de l'April, april.org, et sur causecommune.fm, on retrouve une page avec toutes les références que Tiffaine a citées, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, je te remercie pour cette première chronique qui était... Ça s'est bien passé.
Oui, ça a été, merci.
Voilà, bon, les conditions ne sont pas forcément, effectivement, avec les conditions sanitaires, ne sont pas forcément idéales pour une intervention. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir que cette donc, chronique In Code We Trust, donc dans le code nous croyons, sera assurée, alors je ne sais pas si alternativement, mais en tout cas par Noémie Berger et Tiffaine Bonnet du cabinet d'une. Tiffaine, je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci, bonne journée à vous.
Merci. Alors, on va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous abordons notre sujet principal consacré au lecteur multimédia libre VLC. La première pause musicale concerne Aaron Swartz, qui était militant des libertés informatiques et de la culture libre, convaincu que l'accès à la connaissance est un moyen d'émancipation et de justice. D'un point de vue technique, il est notamment contributeur au développement de RSS, qui est très utilisé, et les radios l'utilisent beaucoup pour les flux podcasts. Il a également participé au développement des licences Creative Commons, avec notamment Larry Lessig. Aaron Swartz s'est suicidé le 11 janvier 2019. 2013 à l'âge de 26 ans. Dans l'émission 49 de Libre à vous, nous avions consacré une note de lecture du livre de Flore Vasseur, Ce qu'il reste de nos rêves, consacré à Ron Swartz, que vous pouvez donc retrouver sur libreavous.org/49. Et nous allons donc écouter une chanson hommage à Ron Swartz qui date de 2016. Elle s'appelle Aaron et c'est par Simon G. Giraudeau. On se retrouve dans 4 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Station tranquille et le réveil est amer et plus rien n'est paisible quand on assassine les génies qui rayonnent et glorifient les vendeurs de téléphones. Baron Aaron pour ce que l'on donne. Combien de frères qu'on emprisonne? Combien de luttes qu'on abandonne? Aaron, les sanguinaires, des guerres lasses qu'on mise à terre. C'est qu'ils souffrent et qu'on est fiers. 26 printemps, combien d'hivers? Edward a fui, Julian se cache, et combien de tombes anonymes? De droit par travers, qu'on arrache, la contre-attaque est légitime. Quand l'ennemi est devenu intérieur, avec pour seules armes nos peurs. Combien d'avenants dans le contrat, pour quelle excuse on marche au pas? Des biens communs aux fosses communes, tu paies le prix fort de la thune. Et s'ils sont vainqueurs, pas de médaille, pas de légion d'honneur. Aaron, Aaron, pour ce que l'on donne. Combien de frères qu'on emprisonne? Combien de luttes qu'on abandonne? Aaron, les sanguinaires, des guerres lasses dont mis la terre. C'est qu'ils souffrent dès qu'on est fiers. 26 printemps, combien d'hiver?
Nous venons d'écouter Aaron par Simon Giraudeau, dit G. disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA. Le site de G est grisbouille toutattaché.net. C'est un blog BD humoristique et hétéroclite où se côtoient fiction absurde, vulgarisation scientifique, satire politique, et il est publié entièrement sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Simon Giraudot fait partie également de Framasoft. Je remercie grandement Christian Maumont, administrateur de l'April, de nous avoir fait découvrir ce titre qui est vraiment très très beau. Je signale également que Flore Vasseur, qui a donc consacré un livre à Aaron Swartz, est la réalisatrice de Bigger Than Us, qui sort demain, mercredi 22 septembre. C'est un long métrage documentaire tourné aux quatre coins de la planète sur une jeunesse merveilleuse qui lutte pour les droits humains, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation ou à l'alimentation. Et je vais en profiter juste avant de passer au jingle, de rappeler la question quiz, hein. N'hésitez pas à essayer d'y répondre sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc dans sa chronique en fin d'émission, Vincent Calam va rendre hommage au copier-coller en informatique. Savez-vous quel est le lien possible de cette pratique avec le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson, qui a notamment écrit Las Vegas Parano? Mais on va en attendant passer au sujet suivant. Alors, le réalisateur Étienne est très fort parce qu'il a lancé le bon jingle alors que je n'ai pas suivi l'ordre habituel des jingles. Tu es très très fort, Étienne. On va passer au sujet donc principal. Vous utilisez sans doute VLC. Vous savez, ce lecteur multimédia dont le logo ressemble à un cône de chantier, mais savez-vous que c'est un logiciel libre? Connaissez-vous l'histoire de ce logiciel, son fonctionnement, son mode de développement? Donc c'est le thème principal de notre émission du jour, qui est en fait une rediffusion d'une émission du 29 octobre 2019, mais qui reste toujours d'actualité. Donc on va écouter cette rediffusion et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur le célèbre lecteur multimédia libre VLC dont l'icône est un cône de chantier, et nous allons bientôt apprendre les raisons de ce choix. Notre invité est donc Jean-Baptiste Kempf, président de Videolan, l'association qui gère VLC, et fondateur de la société Videolabs qui crée des services autour de VLC et plus généralement des nouveautés autour de la vidéo. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Alors Jean-Baptiste, on a déjà eu l'occasion de l'avoir dans l'émission en octobre 2018 pour nous parler de DRM, les fameuses menottes numériques dont on reviendra très rapidement au cours de l'émission, mais vous pouvez écouter évidemment le podcast. Alors, j'ai une première petite question, une présentation personnelle. Jean-Baptiste, d'où viens-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours?
Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un geek, j'ai 36 ans et je suis parisien, j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris. Et ça fait un bout de temps, à peu près 13 ou 14 ans que je fais du VLC et que ça a pris de plus en plus de temps dans ma vie jusqu'à être mon métier principal.
C'est quoi un geek? T'as prenez ce mot-là au début.
Ouais, en fait, quelqu'un qui adore coder et être sur son ordinateur. Et moi, j'ai toujours été dans le logiciel libre dès que je me suis mis à l'informatique pendant que j'étais en école.
D'accord, donc un passionné notamment d'informatique.
Principalement. Mais aussi de bons bouquins de fantasy, comme le guide Routard de intergalactique de l'espace.
Alors déjà, en plus, c'est un grand honneur de te recevoir, car depuis le 15 novembre 2018, tu as eu le grade de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Donc c'est l'une des plus importantes décorations françaises. Alors ça a l'air de te faire soupirer, mais en même temps, ça récompense une dizaine d'années de contributions à la fois dans ta société et dans la communauté du libre.
Alors ça va te faire rigoler, parce que je suis un gros boulet. J'ai toujours pas récupéré cette décoration, parce qu'il faut organiser une cérémonie, avoir quelqu'un qui te la remet, et je dois avouer que c'était pas vraiment mes priorités, notamment personnelles cette année. Mais il faut absolument que je m'en occupe, parce que sinon je vais jamais avoir le droit de la porter. Alors c'est génial, c'est clair, c'est génial, parce que ça montre notamment qu'on a eu des gens dans l'État qui commencent à comprendre ce que c'est le logiciel libre et pourquoi c'est important pour l'État et pour la France. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'était Mounir à l'époque
qui m'avait proposé. Ministre du numérique.
Maintenant, c'est Cédric O, je crois, qui l'a remplacé. Donc c'est très cool. Par contre, ce que j'aime pas, c'est une décoration personnelle pour un projet qui est un projet commun. Alors c'est sûr, si je suis avec la personne qui a passé le plus de temps autour de VLC et d'autres projets autour de Videolan, mais je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça.
C'est le côté starisation qui te plaît pas?
Ouais, il y a beaucoup trop de starisation dans tout ce qui est tech, tout ce qui est start-up. On parle plus souvent, on voit plutôt souvent, même sur les start-up, des photos des fondateurs plus que de leurs produits. Ça me gêne un peu. C'est pas très grave, mais ça me gêne un peu.
Ok. Avant d'oublier, je précise que si des personnes qui écoutent veulent appeler pour faire une intervention et notamment poser une question à Jean-Baptiste, vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59 et Étienne Gonu en régie attend vos appels. Alors déjà, une petite première question. En fait, de très nombreuses personnes utilisent VLC, sans souvent savoir d'ailleurs que c'est un logiciel libre. Pour elles, pour ces personnes, ça leur permet de lire des vidéos. Mais toi, quand tu présentes par exemple en soirée peut-être ce que tu fais, comment tu présentes VLC en une ou deux phrases déjà? Alors, petit résumé.
Ça dépend de qui est en face et ça dépend de si je veux troller ou pas. En général, ce que je dis, c'est que c'est un lecteur multimédia qui est capable de lire tous les formats de fichiers audio, vidéo et qui marche partout. Ça, c'est l'accroche. Et surtout après, je dis que c'est un logiciel libre développé par une communauté pour le bien commun.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que une des forces effectivement de VLC, c'est de lire à peu près tous les formats de fichiers. Et on va y revenir dans la partie plus technique, présentation des fonctionnalités. Tu dis que c'est une communauté qui développe ça. Mais justement, on va parler de l'histoire de ce projet. Comment c'est né? Parce que c'est un projet très ancien, de nombreuses années. Donc est-ce que tu peux nous raconter, comment est né ce projet à l'École Centrale de Paris, si j'ai bien suivi?
Donc en fait, ce qui est marrant dans VLC, c'est que il n'y a pas eu de créateur de VLC et surtout il n'y a personne qui a voulu faire VLC. Donc les gens, et ça les déçoit un peu quand je leur raconte ça, il n'y a personne qui s'est dit « Oh là là, je vais faire un nouveau lecteur vidéo, ça va être mieux que le reste ». En fait, c'est une succession de projets qui commence en fait il y a très longtemps, qui a donné en fait une partie du projet est devenue VLC. Alors je vais m'expliquer un petit peu parce que sinon c'est un peu flou.
Avec des dates, c'est ce qui permet
en
de...
En fait, le projet originel en fait, il date du fait que dans les années 60, l'École Centrale Paris a déménagé de la gare de Lyon à Châtenay-Malabry, dans le sud de Paris. Pour des raisons un peu bizarres, mais notamment parce que l'éducation nationale n'avait pas l'argent pour le faire. Donc on s'est retrouvé avec une grande école française qui était sur un campus géré par des anciens élèves et donc privé. Et tout dans l'organisation du campus était fait par des étudiants. Le téléphone, la télé, la radio, la cafette et le réseau informatique. Dans les années 80, ils mettent un réseau informatique et c'était un réseau informatique qui était basé sur Token Ring, donc un réseau très lent. Et en fait, vers milieu des années 90, ils veulent avoir un réseau plus rapide. Et quand ils vont voir l'école pour leur dire « on a besoin d'un nouveau réseau plus rapide », en particulier pour jouer, faut pas mentir. L'école
pour jouer en réseau au début.
Pour jouer en réseau. Mmh. Et l'école leur dit, écoutez, vous êtes gentils, vous allez l'utiliser pour jouer en réseau et pas du tout pour travailler. Et surtout, leur raison principale de l'école, c'est, vous comprenez, le campus est privé, nous, on peut rien y faire. Ils disent, allez voir les partenaires. Et en fait, c'est là, en fait, que le projet qui s'appelait Network 2000 à l'époque, évidemment, on est en 95, tout projet s'appelle 2000, sinon, c'est pas un vrai projet. Ils vont voir des partenaires, ils vont voir notamment TF1, qui dit, le futur de la vidéo, c'est le satellite. Alors aujourd'hui, c'est facile de rigoler, mais en 95, c'était important. Et pour 1500 étudiants, s'il faut mettre 1500 décodeurs et 1500 antennes, ça va coûter une fortune. Ce qu'on vous propose, c'est de juste mettre un réseau très très rapide, numérique. C'est le début de la vidéo numérique. On met une grosse antenne et on diffuse la vidéo sur tout le réseau hyper rapide. Et évidemment, on est en 94-95, les ordinateurs les plus puissants, c'est les 486 DX33, DX66 ou des Pentium 60. C'est absolument impossible sans avoir des grosses machines pour faire du décodage vidéo taille DVD à l'époque, sans matériel. Mais ils le font quand même. Et c'est comme ça qu'ils justifient en fait le rachat d'un nouveau réseau pour ce projet dans l'association des étudiants qui gérait le réseau informatique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de VLC. Et puis, ça finit, il y a une démo qui marche, ça crache au bout de 50 secondes, on fait la démo de 42 secondes, comme ça, c'est nickel. Ça, c'était cross-platform, ça marchait grosso modo sous BIOS et Linux, rien d'autre, mais on montrait que c'était possible. Et en fait, pendant un an, il ne se passe plus rien. Il y a des étudiants en 98 qui disent « Mais en fait, c'est un projet qui est marrant de diffusion de vidéos sur un réseau, il y a peut-être d'autres campus ou des réseaux d'entreprises qui sont intéressés. » Donc, ils remontent un projet qui, à ce moment-là, s'appelle « Vidéo ». LAN pour qui veut dire réseau local, en anglais. Et donc, ils commencent le projet VideoLAN. Ils sont en 98. Et là, comme objectif, ils ont de devenir open source et d'être cross-platform. Mais dans VideoLAN, il y avait une partie serveur, une partie réseau, une partie un autre, un truc un peu compliqué. Et il y avait une partie cliente. Mais le partie cliente, c'était pas forcément le focus, parce que c'était pas forcément l'endroit le plus compliqué. Et donc, la partie cliente s'appelle VideoLAN Client.
Donc, VLC.
Et à ce moment-là, tout le monde appelle VideoLAN Client. Ça va ne s'appeler VLC que 3 ou 4 ans plus tard. Au moment où, en 2001, après une bataille de longue haleine, l'école autorise le changement de licence pour que ça passe d'une licence propriétaire vers une licence open source.
Une licence libre, qui est en l'occurrence la licence GNU GPL, General Public License.
Exactement. Alors, ils ne précisent pas la version. Ils disent GNU General Public License et ils ne précisent pas VLC. Ils précisent pour l'ensemble des logiciels du projet Videolan. Et donc, VLC, c'est une petite partie du projet Videolan qui est un projet dont le but a été d'être libre, mais qu'au début ne l'était pas, basé sur un projet qui était originellement de faire un nouveau réseau pour, parce qu'il y avait un réseau informatique lent à l'époque. Et à ce moment-là, quand ça passe en logiciel libre, c'est à ce moment-là qu'il y a des contributions extérieures importantes qui font que ça passe sous Windows et sous macOS rapidement, et pas à l'initiative des élèves, et que ça commence en fait à démarrer à l'extérieur. Mais donc, en fait, il n'y a personne qui s'est dit « Waouh, je vais faire un nouveau lecteur, je vais le porter partout. » C'est vraiment des étudiants, plusieurs générations d'étudiants, parce qu'on parle de 94 à 2002, en fait, pour le début d'exposition. Et il n'y a personne qui s'est dit « Je vais créer VLC. »
D'accord. Donc, l'école centrale de Paris, c'est une école d'ingénieurs. Donc, toi, tu intègres l'école centrale à quelle date?
En 2003.
Donc, en 2003. Donc, je suppose que, comme tu l'as dit en introduction, tu es un geek et puis tu es là pour apprendre. Donc, tout de suite, le projet te plaît. Et alors, en fait, est-ce que tu contribues tout de suite?
Alors, d'abord, c'est pire que ça. Ah. En fait, moi, j'ai choisi l'école centrale Paris parce que je savais que c'était une école où il y avait une association informatique.
Qui faisait du libre.
Qui faisait du libre.
Ah, donc, tu as choisi l'école pour ça, tu
vois. En fait, j'avais rencontré en vacances quelqu'un et en fait, moi, j'ai eu le choix entre plusieurs écoles, plusieurs grandes écoles, et je ne suis allé à Centrale parce que je savais que, un, il n'y avait pas beaucoup de cours, et deux, parce qu'il y avait une association qui faisait du réseau, qui était sous Linux, et alors, j'y connaissais rien, bon, c'était clair à l'époque, mais voilà, et donc, ça a été mon choix, en fait, c'est pour ça que je suis allé à Centrale.
C'est marrant parce que ça me rappelle ma propre histoire à Paris 8, mais des années avant, parce que je suis un peu plus vieux que toi. Donc, tu arrives à Centrale en 2003. Donc, à l'époque, il n'y a pas d'association qui porte ce projet. Et si j'ai bien suivi, c'est toi qui vas initier l'idée de créer une association qui va s'appeler Videolan.
Alors, en fait, ça arrive bien plus tard. Qu'en fait, à l'époque, en fait, les gens du réseau, VIA et les gens Videolan, en fait, c'était très interconnecté. Moi, je deviens le vice-président de l'association du réseau, et puis c'est moi, avec notamment un autre développeur qui s'appelle Rémi. En fait, c'est nous qui portons pendant une année cette association, et donc on fait des choses sur Videolan. Et moi, la première chose que je fais sur Videolan, c'est gérer la diffusion interne de la télévision pour le campus de Centrale. Et ça doit être fin 2003, début 2004, que je commence à toucher au projet Videolan, mais pas du tout par la partie code, vraiment par la partie infrastructure. Et en fait, je fais un stage plus tard, en 2005-2006, et je m'emmerde pendant ce stage.
C'était aux États-Unis ce stage?
Non, pas du tout, j'étais au CEA, la Direction des Applications Militaires. Le stade était génial, mais j'avais beaucoup trop de temps. Je me suis vraiment amusé sur le stage. Mais c'est juste que ça allait pas assez vite pour moi. Et donc j'ai fait deux choses. J'ai fait pas mal de documentation et j'ai commencé à aider sur VLC. En fait, on s'est retrouvé un peu au problème que en fait le projet était trop gros pour l'école et trop gros pour des étudiants, trop d'utilisateurs. Et c'était très difficile de faire quoi que ce soit, surtout parce qu'en 2006, 2007, 2008, en fait, la nouvelle génération d'étudiants est vraiment pas intéressée par le projet. Et donc c'est à ce moment-là où en fait en fin 2007 et début 2008, je lance l'idée de se séparer de l'école. Et donc, en fait, je crée l'association au Videolan Dev Days en décembre 2008, hébergée chez Free. Et c'est là où on fait un vote, où on décide de créer une association. Et voilà. Parce qu'en fait, début 2007, en fait, il y avait plus que 2 personnes et demie actives sur le projet. Moi, quand j'étais donc dans mon stage, comme tu l'as dit, aux États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps à retrouver des mondes, des anciens et des nouveaux, pour se remotiver autour du projet. Et ça va prendre quelques années pour qu'on arrive à la version 1.0 de VLC.
D'accord. Alors, on va y arriver. Une petite question. Alors, le choix du cône de chantier comme icône, c'était à cette époque-là ou pas?
Alors, moi, je suis arrivé, le cône de chantier était déjà là.
Alors, bon, est-ce que tu sais pourquoi c'était choisi comme cône de chantier?
Ouais, je sais, évidemment.
Ah, vas-y.
Alors, il faut savoir, et je suis désolé pour les auditeurs, en fait, il y a une bataille d'anciens pour expliquer quelle est la raison du cône. Mais quand moi, je suis arrivé à Centrale, c'est sûr. Donc, on avait des étages de 24 étudiants, et donc, sur l'étage du 2H, l'étage du réseau, il y avait à peu près une centaine de cônes, il y avait une armoire à cônes, il y avait
un culte du cône, quoi.
Le culte avec des jeux physiques comme le cône acrobatique, le cône ball, des batailles, des montages de batailles à moitié laser, moitié cône. Il y avait vraiment un cône. Un culte sur le cône qui était très drôle, pas du tout malsain, attention pour ceux qui ont peur, c'était très 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 marrant et hyper deuxième ou troisième degré. À l'origine, en fait, ils avaient besoin de parler à un étudiant mais qui voulaient pas leur ouvrir la porte. Et donc, en fait, après une soirée probablement un peu arrosée, ils ont utilisé le cône comme porte-voix pour l'appeler et le alpaguer depuis sa fenêtre. Donc, plutôt que d'avoir une petite mandoline et pour chanter une sérénade, ils ont pris un cône qui était là. Ça c'était des gens autour du réseau. Et en fait, dans la première sortie sous Linux X11, plutôt que de celle qui était avant, qui était en
framebuffer. X11, c'est l'environnement de fenêtrage graphique, voilà. On va dire.
Alors, avant, la première version, elle était en framebuffer. Donc, ça, c'est encore au niveau plus bas. Et donc, ça passe la première version. Et en fait, il y avait un peu un tirage de, enfin, tout le monde se tirait la bourre un peu dans le VLC à l'origine, ce qui est normal, parce qu'il y avait toujours plein de choses à faire. C'est super marrant. Et donc, celui qui met la première version X11, en fait, il commit à 4 heures du matin. Mais plutôt que de, même si c'est pas fini, mais monte juste parce qu'il a quand même fait le plus gros du boulot. Donc, il envoie, en fait, sa version. Et pour montrer que c'est pas fini, il reprend, il met comme icône le petit cône de chantier pour dire que c'est en travaux. Et ensuite, Sam Osvar, qui est un des génies qu'il y a eu autour du projet, dessine la première icône et ça reste. Donc c'est pas réfléchi, c'est complètement débile d'utiliser un cône de chantier pour un lecteur multimédia, mais c'est un coup marketing absolument génial. Parce qu'en fait, c'est hyper reconnaissable. Et donc là, maintenant, quand je vais partout dans le monde, quand je parle de VLC, déjà, les gens ils connaissent déjà beaucoup plus que l'École Centrale Paris ou des choses comme ça, mais surtout, il y en a plein, ils font « Ah non, je sais pas trop ». Et tu dis « Mais si,
le cône de chantier.
Le cône qui lit des vidéos. » Et là, c'est universel.
Donc c'est un excellent souhait. On salue Samuel Osvar, qui a été aussi le responsable du projet Debian, qui est aussi un grand fan de cinéma et notamment de la classe américaine, que peut-être on parlera un jour. En tout cas, aller chercher sur un moteur de recherche Samuel Osvar, c'est un génie.
Et qui a été un premier à introduire Wikipédia en France.
Exactement, c'est un des fondateurs aussi de Wikimedia France aussi. Voilà. J'ai une petite question sur le salon web de la radio. Donc je rappelle, c'est sur causecommune.fm. Donc en réponse rapide, Marie-Odile qui demande « Est-ce que cette école est toujours aussi sympa afin de la conseiller aux jeunes qui vont prochainement passer des concours ?» Donc l'ECP, est-ce que tu conseillerais d'aller à l'ECP aujourd'hui?
Alors je suis désolé, j'en sais rien du tout. D'abord maintenant ça s'appelle Centrale Supélec, ça a été fusionné avec Supélec. Moi j'y vais de temps en temps parce que je suis toujours administrateur de l'association du réseau et je trouve que les gens sont toujours aussi cool. Par contre je trouve que leur campus est quand même moins marrant que le nôtre.
D'accord. Donc voilà la réponse par rapport à ça. On a bien compris, donc, au départ, donc, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ont contribué. On va revenir tout à l'heure aujourd'hui sur la contribution concrète aujourd'hui à VLC parce que les gens doivent se dire qu'il doit y avoir des centaines de personnes qui contribuent tous les jours à VLC. Et on va parler aussi du financement. Mais dans une deuxième partie, on va revenir un petit peu une fois, donc, passer cette historique. Donc, on remarque que c'est un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, qui se développe. Aujourd'hui, c'est la version 3.0, c'est ça?
C'est ça.
3.0. Tu l'as dit tout à l'heure, l'un des grands atouts de VLC, donc, en termes de fonctionnalité, c'est que ça intègre les codecs nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo et que VLC peut lire à peu près aussi tous les flux réseau. Donc c'est aussi, le choix de VLC pour beaucoup de gens, c'est la qualité, la capacité d'accéder à peu près à tous les contenus. Une autre caractéristique, c'est la capacité de lire des flux un petit peu endommagés et de les réparer à la volée. C'est assez magique. Un autre avantage, et là je voudrais bien que tu expliques comment vous faites, c'est le côté multiplateforme, parce que souvent les logiciels libres sont disponibles sur environnement Windows, Mac, GNU Linux. Mais alors là, vous allez encore plus loin. C'est de l'Android, c'est de l'iPhone, c'est...
OS2. On a en fait le cœur...
C'est intégré dans certaines box, et ça serait intéressant d'en reparler tout à l'heure. Alors comment vous faites pour ce côté multiplateforme?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'en fait, VLC, c'est hyper modulaire. Contrairement à, par exemple, un autre lecteur multimédia qui est sur Linux, qui s'appelle MPlayer, qui était là avant. Le cœur de VLC, c'est tout petit. Ça doit être peut-être un dixième du code, un vingtième du code. Et après, on a plein de modules. Et la raison pour laquelle VLC est passé en module, ça n'est pas du tout une idée, une grande idée, en disant « Oh là là, il faut absolument faire ça ». C'était pour, alors je suis désolé pour le terme technique, mais c'était pour raccourcir les temps de compilation à l'époque. Et donc, en fait, quand on faisait une modification, on modifiait juste un module et en compilait, c'était beaucoup plus rapide que tout recompiler.
La compilation, c'est partir du code source pour arriver à la version compréhensible par ordinateur.
Donc, en fait, pour faire plus simple, c'était juste plus facile de développer, mais ça n'était pas dans le but d'être plus cross-platform. C'était vraiment Sam qui voulait coder plus rapidement. Et donc, pour aller plus rapidement dans son développement, il est passé en module. Mais ce passage en module, en fait, c'est vraiment un coup de génie qui était peut-être pas forcément vu à l'époque. C'est que ça a permis justement d'être sur plein de plateformes, puisque quand tu vas sur une autre plateforme, en fait, tu fais juste une nouvelle sortie audio, une sortie vidéo et une nouvelle interface, et puis c'est tout. T'as pas à remodifier tout le reste. Et c'est un deuxième effet qui est cool, qui est très bien, c'est que ça permet aux gens qui rentrent dans le projet de commencer à contribuer sans être capable de comprendre ce qui se passe au cœur. Moi, pendant quasiment 2 ans, entre le premier moment où j'ai codé sur VLC, j'ai jamais rien fait dans le cœur de VLC, parce que c'est compliqué, mais c'est pas grave. Comme c'est des modules, tu rajoutes juste une fonctionnalité. Tu veux un nouveau format, tu rajoutes juste un module. Et quand tu veux placer sur d'autres plateformes, donc t'as mentionné, mais on est ici sur Apple TV, sur Android TV, on a une version qui marche sur la PS4. Bon, elle est pas publique parce qu'on peut, pour des raisons de liberté, on peut pas la publier. Mais, en fait, ce que je dis, c'est que VLC, c'est un des logiciels le plus porté sur plein d'autres plateformes. En tout cas, interface. On est sur plus de plateformes que Chrome, on est sur plus de plateformes que Firefox, que LibreOffice, et je parle même pas, évidemment, de logiciels propriétaires comme Office ou Apple. Donc, et il faut comprendre que, évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, le cœur de VLC, c'est géré par 5 personnes. Et ça, c'est important. C'est des gens très bons, et je suis poli. À part moi, c'est vraiment des gens exceptionnels au niveau code, qui sont vraiment de classe internationale, qui sont hyper bons, qui savent ce qu'ils font. Et donc, en fait, c'est ça qui permet en fait de supporter plein de plateformes. Voilà. Et ensuite, on est très conservateur sur notre approche du code. On écrit tout en C. Un petit peu de C++.
Donc, mais C, c'est un langage de programmation.
Un langage de programmation C, donc vraiment du bas niveau, parce qu'en fait, c'est un langage qui est très limité, mais qui est relativement simple, dont on connaît très bien les limites. Et donc, ça permet en fait de VLC de garder cette qualité. Et c'est aussi un truc important, c'est que VLC, la marque, pour les gens normaux, c'est-à-dire pas les gens qui passent leur journée à compiler leur VLC sur Linux, ils font confiance au code. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a des gens comme moi dans VLC qui ont été hyper embêtants sur la qualité du produit. Moi, j'ai emmerdé les autres développeurs des centaines de fois en disant non, ça c'est pas possible, ça casse ce problème pour l'utilisateur. Moi, j'ai passé des heures et des heures sur les forums, sur Twitter, etc., à écouter ce que voulaient nos utilisateurs. Et ça, c'est hyper important. C'est pas la partie la plus marrante, mais voilà. Au moins, c'est important aussi d'avoir du produit qui fonctionne.
Alors justement, ce support, ça me fait venir une question. Est-ce que globalement, l'équipe reçoit plus d'encouragement ou de remerciements que de plaintes, en fait? Ou c'est traditionnellement...
Non, on n'entend que des plaintes, voire des insultes ou des menaces de mort.
À ce moment-là.
Ah ouais. Moi, j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des lettres anonymes chez mes parents. Donc non, c'est hyper... Il y a des tarés, hein. Enfin, il y a des tarés partout, hein. Bon, par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs, c'est ridicule, les plaintes, oui. En fait. Donc, évidemment, quand toi, t'es de l'autre côté, tu vois que la partie négative. Et c'est vrai que t'entends, quand t'as des mecs qui te disent « Ah, putain, c'est trop bien !» J'ai des mecs qui m'ont envoyé de la bière. Parce que sur un thread Reddit, j'ai dû raconter qu'une des bières que j'adore, c'est la Castel Rouge. Et j'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé une caisse de Castel Rouge qui sont arrivés chez mes parents et que j'ai bu, quoi.
Et est-ce qu'il t'a invité au dernier restaurant avant la fin du monde?
Alors non, on m'a pas invité encore au dernier restaurant avant la fin du monde, mais on m'a déjà invité pas mal de fois au dernier bar avant la fin du monde, soit celui de Paris, soit celui dans d'autres endroits.
Ah, il y en a dans d'autres endroits?
Oui, il y en a
dans d'autres endroits. Ok. Parlez un instant de la qualité, notamment par rapport à l'expérience utilisateur et utilisatrice. Il y a un autre sujet qui doit sans doute te faire stresser, c'est la sécurité. Parce que VLC, alors je sais pas d'ailleurs sur combien de machines, si c'est estimable, est installé, mais... Un problème de sécurité, soit par un bug, soit par une injection de code malveillant, ça doit te faire flipper, ça.
Alors, c'est clair, ça c'est un vrai sujet, qui est très compliqué. Je vais d'abord répondre à ta première question, qui est combien il y a de VLC installés. Ouais. Alors, nous, on fait pas de télémétrie. Moi, j'appelle ça de l'espionnage. Certains, ils appellent ça de la télémétrie, ça s'appelle de l'espionnage, hein. Même quand c'est Mozilla qui le fait. Donc, nous, on fait pas d'espionnage. Par contre, c'est vrai qu'on peut savoir des choses. On peut savoir le nombre de téléchargements sur notre site web. Sachant qu'évidemment, il y a plein d'autres sites web comme download.com, télécharger.fr, et puis évidemment toutes les distributions Linux qui redistribuent sans passer par nous. Donc là, on n'a pas cette information. Mais déjà, donc nous, on voit à peu près qu'on est à 25 millions, 30 millions de téléchargements par mois. Et on voit à peu près 2/3, en fait, c'est des updates, mais donc le reste, ça ne l'est pas. Donc déjà, le fait qu'il y a pas mal d'updates, ça nous donne des informations.
Peut-être c'est les mises à jour.
Les mises à jour, pardon. Et puis après, on a des informations de Microsoft, du nombre d'utilisateurs, notamment pour les crash reports. Nous, on n'a pas d'infos fiables, mais on a...
Une estimation.
En nombre d'utilisateurs actifs, donc ce que tu définis comme une personne qui utilise VLC une fois dans le mois, sous Windows, on a 300 millions d'utilisateurs.
Waouh!
Actifs. Donc tu peux considérer comme en nombre d'installs, on doit être au moins au double en nombre d'installs. Et ensuite, sous
les environnements GNU Linux, FreeBSD et autres, enfin libre, on n'a pas d'estimation.
Alors si j'avais fait des estimations en époque, grosso modo, On prend le nombre sur Windows, on divise par 10, c'est la part de marché qu'on a sous macOS, et après on prend exactement la même chose sous Linux. Parce que voilà, donc ça fait 30 millions. Donc voilà, sur les machines bureau, on pense qu'on a 350 millions d'actifs, et donc en nombre d'installés, c'est peut-être 600 millions, 700 millions.
D'accord.
Et donc, et après, bah, y a les mobiles, où on a eu par exemple sur Android 250 millions de téléchargements, de comptes qui l'ont téléchargé, et 60 millions d'actifs. Et sur iOS, quelque chose de similaire. Donc voilà, donc ça donne un ordre d'idée.
Grosse masse.
C'est une grosse masse.
Et donc la partie sécurité doit être stressante.
Et en particulier parce que nous, on fait du C. On est vraiment au bas niveau. On n'est pas en train d'avoir un langage qui nous aide parce que dans le multimédia, on n'a pas le choix. Il faut être hyper performant. Donc on va le plus proche du matériel. Et donc on a accès au bas niveau. Donc on a accès, en fait, vraiment à tout. Pour ceux qui comprennent, en fait, quand on est dans VLC, on est vraiment en mode kernel quasiment partout.
C'est-à-dire qu'on est le plus proche du matériel, donc on peut quasiment tout faire.
Et surtout, j'ai accès à tout. J'ai accès à tous tes fichiers. Si tu crashes VLC, normalement... Voilà. Et c'est le même problème qu'à Chrome. Hein. Sauf que Chrome, en fait, eux, ils ont une approche, ils ont des millions pour améliorer ça. On a vu, par exemple, la CIA utiliser une fausse version de VLC. Et en fait, en même temps que tu regardais ton film, y avait un petit plugin qu'ils avaient rajouté, un petit module de VLC qu'ils avaient rajouté, qui lui chiffrait en fait tous tes documents dans ton dossier Mes documents sous Windows et les envoyait quelque part. Donc ça, c'était pas notre version de VLC, mais c'était une version
qu'ils avaient récupérée
quelque part, qui redistribuait. Et en fait, toi, tu t'en rends pas compte parce que tu regardes un film, ça dure 2 heures ou 3 heures quand c'est de Avengers Endgame. Et donc là, en fait, ton PC il travaille, il y a un peu de bruit, ça t'étonne pas. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Et puis il y a des failles de sécurité comme tous les logiciels, mais les gens ils font un peu moins les mises à jour en fait que pour Chrome, pour ton navigateur, quand tu passes ton temps à faire ça. Donc on a une approche en fait notamment depuis 3 ans qui est très proactive où en fait on va notamment analyser le code et faire des choses comme ça pour justement trouver les bugs en amont. On a eu un bug bounty donc par la Commission européenne qui payait des hackers pour essayer de trouver des problèmes dans VLC et ensuite nous on allait
c'est le projet Fossa.
C'est sur le projet Fossa.
Le projet Fossa de la Commission européenne.
Évidemment, c'est grâce à Julia Reda. Hein,
L'ancienne eurodéputée du Parti Pirate.
Parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui est intéressé par ce genre de truc. Mais c'était vraiment très cool. Et ça permet en fait de remonter des problèmes. Mais ça ne règle pas le problème fondamental. Et pour régler le problème fondamental, on a une idée avec un système de sandboxing. Donc c'est très très Oula. Compliqué. et surtout, c'est des choses qui n'ont jamais été faites parce que
y a Est-ce que gens... je peux expliquer en une phrase ce qu'est le sandboxing ou après la pause musicale si tu veux.
L'idée du sandboxing, et je pourrais pas faire plus technique que ça, c'est en fait.
Moins technique que ça.
Ouais, pardon. C'est que quand VLC a un problème, en fait, il est dans son petit environnement et donc il n'a accès à rien à certaines machines. Donc voilà. Ça n'est pas grave.
C'est un bac à sable juste pour VLC.
C'est ça. Mais sauf qu'en fait. Ça, c'est en théorie, en pratique, il va falloir mettre en fait une dizaine de bacs à sable à l'intérieur de VLC, et ça, c'est très compliqué.
Bon, donc on va permettre aux gens de réfléchir en écoutant une pause musicale. Nous allons écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1. Funny, the kinky girl is coming.
venons d'écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon, disponible sous licence libre Creative Commons by ESA, c'est-à-dire partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous voulez poser une question en direct au 09 50 39 67 59. Alors nous allons poursuivre notre discussion sur VLC, le lecteur multimédia libre, avec donc Jean-Baptiste Kempf du projet VideoLan et de la société VideoLabs dont on parlera tout à l'heure. Alors là on va aborder un petit peu, juste avant on parlait de technique avec notamment sandboxing et bac à sable, et pendant la pause musicale Jean-Baptiste m'expliquait un petit peu les projets donc pour la version a priori 5, voilà. Ça a l'air d'être quand même un sacré enjeu technique. Là, on va parler un petit peu des problématiques juridiques. Alors, on va les aborder rapidement parce que chacune de ces problématiques juridiques est complexe en tant que telle. Mais déjà, j'ai une première question parce que tu es connu pour avoir reçu des propositions de, alors, paraît-il, de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de l'insertion de publicité de logiciels malicieux dans VLC et tu as refusé.
C'est pourquoi ? Bah, c'est tout à fait exact. Ça m'est arrivé au moins trois fois. Des mecs qui voulaient, en même temps que tu installes VLC, ils t'installent un antivirus Avast ou Avira, changer ta page de démarrage ou d'installer des toolbars. Et pour moi, ça c'est hostile à l'utilisateur, donc c'est no way, quoi, quel que soit le montant. J'ai des gens qui m'ont proposé de racheter le nom de domaine videolan.org. Donc déjà, eux, ils étaient un peu plus malins parce que c'est un peu plus malin qu'essayer de mettre de la merde dans VLC. Mais pareil, ça correspond pas à quelque chose qui est bien pour mes utilisateurs, ni à la philosophie que j'ai autour du projet. Je suis pas contre l'argent en soi, hein, mais l'argent, ça doit être fait de façon morale.
D'accord. Alors, au niveau des problématiques juridiques, on va parler de deux problématiques juridiques précises assez rapidement. Les DRM, menottes numériques, et ensuite brevet. Alors, les DRM, il y a quelques années, donc les menottes numériques, donc on en a déjà parlé avec toi et Marie Duponchel, donc dans l'émission d'octobre 2018, donc vous retrouvez les podcasts évidemment en ligne. Donc les menottes numériques qui empêchent un certain nombre d'usages. Et il y a quelques années, donc VLC avait saisi donc l'Adopi, parce que beaucoup de gens ignorent que l'Adopi a au-delà d'aller de son activité bien connue, à normalement la régulation de ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, hein, ce que nous on appelle les menottes numériques. Et notamment, vous l'aviez saisi concernant les Blu-ray, les formats des Blu-ray, parce que, est-ce que VLC avait les capacités juridiques, non pas techniques, parce que techniquement vous saviez le faire, évidemment, pour lire ces fameux Blu-ray. Alors, première question, pourquoi vous avez dû saisir l'Adopi, quelle a été la réponse de l'Adopi et quelle est la situation aujourd'hui par rapport à la lecture, notamment donc, de ces Blu-ray?
Donc en fait, VLC est capable de lire les DVD depuis 2001. Et donc en fait, c'était avant les lois LCEN, EUCD et tout ce genre de...
Alors LCEN, loi pour la confiance dans l'économie numérique, et EUCD, c'est la version directive. Française de la directive droit d'auteur.
Donc voilà, donc ça c'était des lois qui avaient été faites. Et donc en fait, on était passé avant ça. Quand on veut mettre la lecture du Blu-ray dans VLC, on est après ça, et notamment, il y a une agence de régulation des mesures techniques de protection qui avait été créée, et qui n'avait jamais rien foutu. Ils n'avaient même pas rendu le rapport annuel qu'ils devaient rendre, et donc on a mergé ça dans Adopi au moment de la loi Adopi. Et donc, en théorie, c'était à eux de nous aider, parce qu'en fait, il y a un problème fondamental qui est l'interopérabilité et les mesures techniques de protection. Et grosso modo, en fait, c'est deux concepts qui sont impossibles. Et puis, la loi était hyper peu claire, donc on allait poser des questions. Parce qu'en théorie, c'était eux qui étaient le régulateur. Bon, la réponse, on n'a rien compris à la réponse, en particulier parce qu'ils n'ont rien compris à la question. Ils ont fait ça avec une mauvaise foi absolument forte. Ils n'ont jamais réussi à comprendre. Ça a mis 2 ans avant qu'on réussisse à avoir une question au gouvernement par un député. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se bouger. Et grosso modo, ils n'ont rien compris à la question et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont même pas posé la question. En fait, ils étaient vraiment dans un mode complètement politique avec Franck Riester qui, à la fin, en fait, s'est rendu compte.
Donc, actuellement ministre de la Culture et anciennement qui était le rapporteur du projet de loi Adopi.
Voilà, qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose à faire et qu'on n'était pas là juste pour les emmerder, qu'on posait vraiment une question, quoi. Et puis, il y avait le secrétaire général de l'Adopi, dont j'ai oublié le nom.
Éric Walter.
Éric Walter aussi, qui a essayé de bouger, mais c'était trop tard. Donc, j'ai dit publiquement que c'était des gros nuls. Je le redirai publiquement.
Tu es en train de le dire publiquement.
Ouais, bah, je peux le redire une fois de plus, hein, ça ne dérange pas. J'ai eu Jacques Toubon, donc, qui évidemment ne se souvient pas de moi parce que c'était mon maire quand j'habitais dans le 13e arrondissement de Paris, qui a écrit, Monsieur Kempf, je sais pas quoi, il avait écrit dans la presse que j'étais un méchant, grosso modo.
Et alors Jacques Toubon, qui était un ancien aussi ministre de la Culture et qui, à l'époque, devait être député européen, je pense.
Peut-être, voilà. Aujourd'hui, il fait un travail qui est plutôt bien en tant que médiateur de la République et je crois que ce qu'il fait est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, il m'avait gonflé et je lui ai dit, enfin, je crois. Et je l'ai croisé une fois et je lui ai dit qu'il avait rien compris au sujet et je crois qu'il m'a dit, ouais, c'est possible, j'ai rien compris.
Mais alors donc, d'un point de vue, donc l'Adopi a répondu à côté ou n'a pas compris le sujet. Mais donc aujourd'hui, est-ce que légalement, comment ça se passe le
Je ne sais pas.
Donc aujourd'hui, on ne sait pas en fait.
Tu peux lire les Blu-ray qui ne sont pas chiffrés, qui n'ont pas de DRM. C'est peut-être 1% des Blu-ray, notamment pas mal d'imports japonais. Et puis ensuite, eh ben, il faut que tu trouves une façon de contourner la protection. Donc par exemple, sur le site de Videolan, en fait, tu peux télécharger une bibliothèque qui peut te permettre ça, mais elle n'a pas les clés. Donc ensuite, il faut les trouver sur Internet des clés.
D'accord.
C'est pas très très compliqué, ça marche très très bien. Mais en tout cas, moi, légalement, j'ai pas le droit de le diffuser. Peut-être qu'un jour, et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai le droit de diffuser en fait la bibliothèque, mais les clés, je pense pas. Mais j'en sais rien.
Mais on ne sait pas. Et l'autorité qui est en charge de redonner la réponse ne sait pas.
Non, mais c'est des gros nuls, hein. Aussi bien la RMT que Adopi. Et maintenant, ils savent tellement pas quoi faire de ce gouffre financier, de cette connerie du début jusqu'à la fin, qu'ils vont essayer de la merger dans le CSA. Le CSA, qui est quand même un petit peu plus compétent, mais pour avoir déjà discuté avec eux sur les questions de TNT numérique, c'est complètement noyauté par des lobbies. C'est absolument une catastrophe.
D'accord. Alors ça, c'est les DRM, donc la base juridique, c'est le droit d'auteur. Là, on va passer aux brevets, et notamment au format des fameux codecs audio ou vidéo, parce qu'il y a des codecs libres, hein, formats qui sont libres, mais dans la vidéo et dans l'audio, il y a beaucoup de formats qui ont des brevets. Alors comment VLC gère cette situation ?
Il y a deux endroits, les deux pires endroits au monde pour les brevets, c'est le multimédia et la 3G. Grosso modo, ce sont ce qu'on appelle des minefields, c'est-à-dire des champs de mines au niveau brevet. Tout est breveté, mais le concept de base est breveté. Philips a attaqué plein de boîtes jusqu'à il y a 3 ans sur les sous-titres, hein, parce que le concept de sous-titres était breveté pour une idée. Ouais, sérieusement.
D'accord.
Ouais. Et c'est que des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, hein, aiment pas trop le multimédia parce que ils ont très peur, et notamment il y a pas mal de distributions Linux qui sont basées aux États-Unis qui ont très très peur de ça parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui se font et on parle de grosses. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'enfer. Et alors que nous VLC, on n'est pas à supporter un ou deux formats, on supporte tous les formats.
Donc les formats brevetés.
Donc si je devais payer tous les prix des licences, je pense que pour chaque VLC, on sera à peu près à une centaine, 150 d'euros. Par VLC distribué. Donc évidemment, ça n'a aucun sens. Et alors là, on a la chance d'être en France. Et la France est un des derniers pays occidentaux à avoir une législation sur les brevets logiciels à peu près saine. Alors je dis à peu près saine parce que ça bouge beaucoup, mais en fait, on est les moins pires. Je vais déjà dire ça. Parce qu'en théorie, les brevets logiciels ne sont pas valables au niveau européen. Ça a été rejeté plusieurs fois par le Parlement. Malgré tout, notamment les Allemands et l'Office européen des brevets acceptent des brevets logiciels que s'ils apportent vraiment une innovation. Donc c'est un peu pas très clair. Mais en tout cas, en France, c'est assez clair. Et surtout, personne n'a envie de savoir la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils se mettent à nous attaquer, d'abord, il n'y a pas d'argent à récupérer chez Videolan, mais surtout, ils savent que nous, on va les faire chier et qu'on ira jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme. On va faire tout le process, ça prendra 10 ans, mais à la fin, le risque, c'est que tous les brevets logiciels soient invalidés, et ça, ils ne veulent pas. Donc leur statu quo, en fait, les arrange pas mal. Donc pour le moment, on n'a pas ce problème-là. Et ensuite, bah moi, en fait, non seulement je suis technique, mais je comprends le droit. Donc en fait, je reçois souvent des lettres d'avocats. Ils me disent « Oh là là, tu violes ce brevet ?» Et moi, je dis le brevet, je dis non. Ils me font « Bah si. » Je fais « Bah non, parce que le claim, je le fais pas comme ça, etc. etc. »
Le quoi ? Le claim ?
Alors, les brevets, c'est très compliqué, parce qu'en fait, tu as des...
Ah oui, le claim, c'est L-A-I-M. La prétention.
Ouais, tu prétends plein de choses, voilà. Et t'en as une centaine. Et en fait, à partir du moment où tu montres que la prétention est fausse, tu ne valides pas le brevet. Mmh. Mais sauf que moi, je suis suffisamment bête pour passer une heure à aller lire le brevet, essayer de comprendre ce qui se passe, et leur dire, ouais, mais en fait, votre brevet, vous voyez, en fait, il est pas vraiment valide parce que, d'abord, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur montrer que ceux qui brevetaient étaient déjà dans VLC. et que j'avais l'historique Git, et donc je pouvais savoir quand est-ce que ça avait été commité. Donc là déjà tu sens que les mecs disent bon, ok, on va pas trop t'embêter. Et puis surtout je leur dis bah non, votre brevet il est pas valide parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait, ou alors en fait moi je peux le contourner. Et ils sont pas habitués parce que c'est un système mafieux. En fait ils arrivent, ils te font peur, ils te disent si jamais je t'attaque ça va te coûter 1 million d'euros, ou alors tu peux me payer la licence de 50 000. Donc tu prends pas le risque, tu payes. Mais moi j'ai pas d'argent et surtout j'ai rien à perdre. Donc je leur réponds. Et en fait résultat ça fait partir la plupart de ces gens là.
D'accord. Alors, c'est excellent parce qu'en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, en fin d'émission, on va reparler de ce sujet, notamment avec un brevet dans un autre domaine qui est celui des images avec Gnome, qui a exactement la même réaction, qui se fait attaquer, qui réagit. Mais comme le temps file et tout à l'heure, tu as dit qu'aujourd'hui, VLC était développé cinq personnes. Mais alors, en fait, qui paye ces gens-là? Comment est financé le développement de VLC? Et je te demanderai aussi de faire le lien avec ta société, Videolabs, qui contribue au financement de VLC.
Donc, sur la plupart de l'histoire de VLC, c'était que des gens qui travaillaient sur leur temps libre, des étudiants. C'est comme ça que moi j'ai fait jusqu'en 2012. Voilà, j'avais une deuxième vie, le soir, le week-end, mes vacances. On a eu un petit problème qui a commencé, que j'avais vu notamment en discutant avec Gnome et les gens de KDE, de se rendre compte qu'en fait à partir le pic du logiciel libre desktop c'était 2009-2012, tous les cadors c'était les mecs qui faisaient ça, et puis après on a vu les contributions commencer à se réduire, notamment parce que les étudiants ils veulent faire une nouvelle start-up, ils veulent faire un nouveau jeu vidéo grâce aux plateformes. En fait maintenant ça n'a jamais été aussi facile de publier sur Android, sur iOS, donc on préfère vouloir faire Flappy Birds que bosser sur VLC. Et il y a une professionnalisation autour de l'open source, c'est-à-dire vraiment la partie non libre, c'est-à-dire la partie Google, Facebook, etc., qui est surtout la partie server side.
Et sur la partie côté serveur.
Ouais, côté serveur. La partie vraiment logiciel libre sur le bureau, c'est quelque chose qui se raréfie, en tout cas en proportion. Et donc c'est de plus en plus difficile d'avoir des gens qui veulent bien travailler là-dessus et sur leur temps libre, parce que sur leur temps libre, on pourrait faire des apps ou surtout ils sont fait rafler tous par Google, Facebook et autres. Et le deuxième truc, c'est que on s'est rendu compte que pour travailler pour le futur de VLC, il fallait passer par les smart TV et les smartphones, qui sont tous sauf smart, mais en tout cas c'est beaucoup plus contraignant de travailler dans un environnement, de développer pour ces environnements-là. Et en fait tu peux pas demander aux gens sur leur temps libre d'avoir une version professionnelle de VLC là-dessus. Donc en fait je voulais en fait créer une sous-société de vidéo LAN, donc comme en fait fait Mozilla.org et Mozilla Foundation. L'association m'a dit que c'était pas une bonne idée, donc j'ai créé une société à côté, puis j'ai embauché des gens de la communauté pour faire avancer VLC. Donc maintenant j'ai une boîte qui s'appelle Videolabs, qui ne produit quasiment qu'exclusivement du logiciel libre. On fait un peu de conseils, mais on fait surtout du logiciel libre. Et ça permet en fait d'accélérer VLC, et une grosse partie du travail de l'entreprise, c'est-à-dire plus de 50%, n'a pas de clients, c'est juste améliorer VLC. Mais il y a encore des gros développeurs qui sont pas dans la société, et c'est comme ça. Mais malheureusement, en fait, il y a un problème, là tu parlais d'un problème de financement, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de business model B2C open source. Donc,
B2C,
donc pour le grand public.
Pour le grand public.
Et donc en fait, c'est très difficile de trouver de l'argent pour payer les gens pour continuer à faire développer VLC. Et les gens me disent, mais pourquoi tu fais développer VLC? En fait, c'est justement parce que tu t'en rends pas compte que ça marche. C'est qu'en fait, il y a toujours des nouveaux formats, H.264, H.265, HEVC, on parle de 4K, on parle d'HDR. Et nous, on travaille énormément derrière pour que VLC suive les évolutions en même temps. Comme ça, les utilisateurs se rendent pas compte. Ils disent, non, mais ça marche toujours. Ouais, mais ça marche toujours parce que justement, on fait cet effort. Et ça coûte de l'argent.
Alors, en parlant d'argent, rapidement, pendant la pause musicale, tu me parlais techniquement du sandboxing, donc la boîte bac à sable pour la partie sécurisation, et tu me dis un chiffre.
1 million d'euros.
1 million d'euros, voilà, pour améliorer.
Pour améliorer énormément la sécurité de VLC, il faut le faire. Il faut 1 million d'euros, et je vais aller demander un peu d'argent au ministère de la Défense, d'ailleurs, avec une subvention. Je vais utiliser les techniques en fait de start-up pour aller vérifier si ça peut pas intéresser le ministère de la Défense.
D'accord. Il nous reste peu de temps. Je vais relayer une question que j'ai eue en préparant l'émission donc sur le salon web, qui concerne une façon de contribuer à VLC qui est moins technique, qui concerne la documentation, hein, même si la documentation ça reste quand même un petit peu technique, mais moins que le coder en langage C. Donc la question portait sur l'opération Google Season of Docs, donc c'est la saison de la documentation, qui est une manière pour des rédacteurs et rédactrices techniques d'être rémunérés par Google pour travailler sur des projets libres et améliorer la documentation. Donc visiblement, VLC a a eu recours à cette opération. Est-ce que tu as un retour d'expérience?
Alors, ouais, en fait, on a toujours été parti de Summer of Code. Et là, il y avait donc Seasons of Doc, qui était quelque chose de nouveau. Et donc, on l'a fait. On a une étudiante qui s'appelle Eddie. En fait, son nom est un peu long, donc j'ai un peu du mal à le prononcer, mais on l'appelle Eddie. Donc, c'est une femme. Elle habite à Lagos, au Nigeria. Et elle est en train de refaire la documentation utilisateur de VLC, qui est un sujet dont on en parle depuis 10 ans. Et c'est vrai que la documentation de VLC, elle est vraiment honteuse par rapport à la qualité du logiciel. Et je dirais pas que c'est moins technique, je pense que c'est plus difficile en fait que de coder. Moi, je suis pas capable de coder, je serais incapable de faire une documentation. C'est vraiment très long, très très difficile. Et je pense que c'est quasiment aussi difficile que les transcriptions de Marie-Odile.
C'est vrai que c'est, tu as tout à fait raison. Deux petites questions, donc pareil que j'ai reçues en préparant. À quand une vidéothèque où on pourra classer, chercher films et séries?
4.0, c'est en bêta.
En bêta 4.0, donc.
C'est en train de, tu prends les Nightly Build de VLC, il y a tout ça. C'est...
Alors, les Nightly Build, donc c'est les compilations de tous les soirs. Donc, mais pour quelqu'un qui va installer sur sa distribution GNU Linux.
Fin de l'année.
2019, donc.
Fin de l'année 2019, plus quelques mois de retard, mais à peu près c'est ça. C'est quasiment fini, on a justement tout ça, justement une sorte de iTunes, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et sans avoir un media center complet comme Kodi, un truc un peu simple, où est absolument optionnel. Si les gens veulent garder juste le VLC, ils ont juste le VLC.
D'accord. Autre question qu'on m'a relayée, ou une suggestion, ce serait bien que les devs de VLC, donc les personnes qui développent VLC, y ajoutent un coupeur de vidéo intégré pour couper des longues vidéos en plusieurs petites séquences de 3-5 minutes. Est-ce que c'est prévu ou
Alors, techniquement, tu peux déjà le faire dans VLC, c'est juste hyper compliqué à faire, parce que t'as un bouton record en fait qui permet de te le faire. La fonctionnalité, si je comprends bien, c'est la fonctionnalité qui ressemble à celle que QuickTime avait, qui permet de couper. En fait, ce que ça fait, ça met juste des marqueurs dans la vidéo.
Je suppose.
Et c'est pas très compliqué à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver une interface correcte pour le faire. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, enfin, dans l'interface, mais je vais y réfléchir parce que je pense que en fait, ouais, faut que je démarre mon Mac pour voir comment on fait QuickTime et je pourrais faire ça, ouais.
D'accord. Dernière question, je te laisse le mot de la fin. On a parlé beaucoup de vidéos et j'ai une petite question personnelle. Parce que j'ai cru comprendre que tu appréciais les séries, les films.
Ouais.
Est-ce que tu as des conseils de séries ou de films aux personnes qui nous écoutent?
De séries ou de films? Moi, j'ai plutôt des conseils bouquins, en fait.
Eh ben, vas-y, bouquin,
alors,
vas-y.
Le meilleur livre au monde, ça s'appelle « Le nom du vent » de Patrick Rothfuss. Alors, je suis désolé, je vais vous le conseiller. Vous allez me détester après quelques mois. En fait, il y a que 2 volumes qui sont sortis, mais c'est absolument addictif. Dans le même style, je vous conseille à peu près tous les Patrick Sanderson. Mais pareil, il faut pas commencer encore son grand chef-d'œuvre parce qu'il a que 3 bouquins de 1200 pages. Il y en a 14 qui sont prêts. Mais en tout cas, il y a plein de nouvelles qu'il a fait et c'est absolument génial. Donc, Sanderson et Brian Sanderson et Patrick Rothfuss, c'est mes grands coups de cœur dernièrement de bouquins.
D'accord, bah écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une annonce à faire dans cette fin d'émission? Enfin, de sujet en tout cas.
Rien de spécial. Utilisez VLC, continuez à soutenir VLC. Bizarrement, VLC, c'est très connu à l'étranger et en France, y a parfois un petit désamour. Je pense qu'on n'est jamais prophète en son pays. Mais en tout cas, continuez à parler de VLC parce qu'on en a besoin, même si on a l'impression que tout le monde connaît. En fait, vu l'émergence des plateformes qui arrivent avec Netflix et des plateformes qui sont pas très ouvertes et pas très loyales, c'est important plus que jamais de libérer la vidéo.
Bah en tout cas, merci Jean-Baptiste. Donc c'était Jean-Baptiste Kempf de VLC, du projet VideoLand, de VideoLabs. Et en tout cas, merci pour ce que vous faites. Je te souhaite une belle journée.
Et je te remercie.
Ben, nous sommes de retour en direct, mardi 21 septembre 2021. Vous venez d'écouter une rediffusion d'un sujet consacré à VLC en date du 29 octobre 2019. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre dernier sujet avec Vincent Calame qui rendra hommage au copier-coller. Je vais en profiter pour rappeler la question quiz et je la pose aussi à Vincent, comme ça il va avoir le temps de réfléchir, vu qu'il vient d'arriver. Dans sa chronique, Vincent va donc rendre hommage au copier-coller qui permet par exemple de copier des données d'un endroit à un autre en informatique. Savez-vous quel est le lien possible de cette pratique avec le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson? Vous allez avoir à peu près même pas 2 minutes pour y réfléchir, car nous allons en effet écouter « J'ai acheté un agneau gastrix chez Wish & Lidl, part 2, c'est pas pour moi, c'est pour un pote » par le groupe Plagia. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter « J'ai un agneau gastrique » chez Wish & Lidl Part 2. « C'est pas pour moi, c'est pour un pote » par le groupe Le Plagiat. Disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Le site du groupe Plagiat, c'est plagiat.org. Et vous pouvez y retrouver leur musique ainsi que des clips.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calame, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue et entendue et vécue autour de l'usage de logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre, c'est la chronique que Jouons Collectif. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Alors le thème du jour, l'hommage au copier-coller.
Oui, tout à fait. Alors j'avais cette idée de rendre hommage au copier-coller qui était donc dans ma liste de sujets potentiels pour cette chronique depuis longtemps. Et il se trouve que le travail qui a été fait pour le nouveau site de Libre à vous l'a remis sur le devant de la scène. En effet, dans ce travail, je me suis occupé de la récupération du contenu des données et des pages des émissions existantes pour les mettre sur le nouveau site. Alors, dans ce cas-là, on essaye d'automatiser un maximum pour récupérer le plus d'informations possible et éviter un laborieux travail de correction post-migration. Mais il arrive toujours un moment où l'automatisation atteint ses limites. Face à la multiplication des cas particuliers, l'intervention humaine est indispensable et le copier-coller est sa meilleure, si ce n'est l'unique arme à sa disposition. Ultime recours des cas désespérés, le copier-coller n'a cependant pas bonne presse dans le domaine informatique.
Comment ça ?
Oui, parce que c'est aussi une solution de facilité. Alors, je ne parle pas ici des plagiats, hein, lorsqu'un livre ou un mémoire est constitué de morceaux pompés sur Internet. Bon. Et cela dit, d'ailleurs, dans le libre, copier n'est pas un gros mot, c'est même un acte encouragé quand la licence est respectée. Mais en fait, je pense plutôt au copier-coller au moment de l'écriture de son code informatique. On va copier-coller du code venu d'ailleurs, ou du code interne, pour reproduire tel ou tel comportement. En procédant ainsi, non seulement on copie également des bugs et les erreurs sans discernement, mais aussi on se complique la mise à jour future. Si une erreur est rencontrée dans le bout de code, il faut le corriger partout. On connaît ces bouts de code où les copier-coller sont accumulés au cours du temps et qui en deviennent illisibles et immaintenables. D'ailleurs, on les rencontre souvent dans les fichiers de configuration. Ça commence par une petite ligne, puis une petite ligne, et encore une petite ligne, pour finir à une masse de code informe. Mais bon, hein, je crois que l'être humain est ainsi fait qu'entre un gain immédiat, le copier-coller, et un risque futur hypothétique, il choisit toujours le premier. D'ailleurs, nos problèmes environnementaux en savent quelque chose. Et je crois que le monde de l'informatique n'échappe pas à cette règle.
Alors il faut donc bannir le copier-coller ?
Non, si c'était ma position, je ne lui rendrais pas hommage. Outre le fait qu'il est souvent la dernière option disponible, il faut aussi éviter une automatisation extrême sous prétexte de l'éviter à tout prix. Moi j'ai un exemple concret dans mon travail pour une fondation. Pour les réunions d'équipe, chaque lundi matin, il est présenté une compilation de différentes productions des membres de cette équipe. Cette compilation provient de plusieurs sources, les comptes rendus de réunion, mais aussi des informations budgétaires, des points sur les missions en cours, les activités de la semaine écoulée, etc. Alors, cette tâche est en grande partie automatisée, mais en partie seulement. L'automatisation sélectionne les éléments, les met en forme, les prépare pour le copier, justement pour un copier-coller dans le document final. En fait, après quelques tâtonnements, nous sommes rendus compte qu'une automatisation complète du processus ne serait pas souhaitable, pour trois raisons. Premièrement, elle serait complexe à mettre en place pour un gain somme toute modique. Deuxièmement, elle serait assez fragile et très sensible aux changements de configuration. Alors, dans notre exemple, la source des données budgétaires change tous les 3 ans. Donc si l'automatisme se base là-dessus, il faut le reprendre. Troisièmement, le passage par un copier-coller est une action humaine, permet justement de garder de l'humain dans le processus. Autrement dit, de garder la souplesse nécessaire pour s'adapter à tous les cas particuliers. Je crois qu'il faut se garder des boutons qui font tout en un coup. Donc j'ai même connu des comptables qui se méfiaient des procédures automatiques de transfert de données, comme par exemple du système de facturation vers la comptabilité générale, et qui préféraient faire une double saisie des lignes budgétaires. Bon, voilà. Donc en conclusion, je pense qu'on peut voir le copier-coller comme un outil de fainéant. Hein, ça dispense d'une réflexion plus approfondie sur l'organisation de son code. Mais inversement, une automatisation trop poussée est aussi une démarche de fainéant qui peut se révéler dangereuse. Je pense que quand on gère des données, notamment, on devrait toujours se poser la question de comment les récupérer par copier-coller, qui est la ressource ultime. Parce que, comme disaient les latins, res ad triarios reedit. c'est-à-dire faire appel aux triarii, qui étaient la dernière ligne de défense de la légion romaine et qui n'intervenaient que dans les situations désespérées. Voilà comment je vois l'usage du copier-coller, la ressource, la dernière possibilité avant la fin.
Mais écoute, merci Vincent. Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse au quiz, qui était un peu un piège que je t'ai pris par surprise, est-ce que tu as une idée ?
Alors, je n'ai pas profité des 2 minutes de musique pour consulter un moteur de recherche. Donc, peut-être que Surjournalist n'existe pas et qu'il est constitué de copier-coller d'autres articles.
Non, alors, le lien n'est pas forcément direct, mais en fait, quand tu m'as parlé de cette chronique sur le copier-coller, j'ai immédiatement pensé à un article que j'ai lu récemment et qui portait sur le méthode de travail donc, de Hunter S. Thompson. Donc je rappelle la question quiz, savez-vous quel est le lien possible entre la pratique du copier-coller et le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson ? Alors la mauvaise réponse n'est pas que Vincent prend de la drogue, parce que Vincent a priori ne prend pas de drogue, et pourtant la page Wikipédia de Hunter S. Thompson indique. Donc Hunter Stockton Thompson popularise le principe de journaliste... Le journalisme gonzo, inventé par Bill Cardozo, enquête journalistique axée sur l'ultra-subjectivité, faite de récits à la première personne, de rencontres, de prises de drogue, tout cela combiné à une plume féroce et un fort engagement politique. Alors, Hunter S. Thompson débutera comme journaliste dans les années 60 et il publiera des livres considérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre, tels que Hell's Angels ou encore Las Vegas Parano. Il se suicidera en 2005. Alors, le lien avec la pratique du copier-coller est la suivante. Il y a quelques jours, même quelques semaines, en fait, j'ai lu un article qui parlait des pratiques donc, de cet écrivain. Et en fait, pour apprendre, pour se créer un style, il a recopié à la machine à écrire des livres, notamment Gatsby le Magnifique de Frederick Scott Fitzgerald, L'Adieu aux armes d'Ernest Hemingway, dans le but de se familiariser avec le style de ses ouvrages, se faire la plume, et aussi pour savoir ce que l'on ressent en écrivant un chef-d'œuvre. Il disait même, voilà, je veux ressentir l'effet que ça fait d'écrire aussi bien. Fondamentalement, c'est de la musique, je voulais apprendre des meilleurs. Alors bien sûr, comme l'a précisé mon collègue Étienne Gonu quand on a préparé l'émission et je lui ai soumis le quiz, l'effet n'aurait pas été le même s'il avait simplement copié-collé des livres avec un outil informatique.
Donc, c'est sûr qu'en nombre de touches, le copier-coller c'est CTRL-C, CTRL-V, ce qui n'est pas la même chose que taper sur une machine.
Voilà, et donc voilà, j'ai fait le lien quand tu m'as parlé de cette chronique. Bon, j'avoue que le quiz était peut-être un petit peu compliqué, mais dans la page Wikipédia, en fait, il y a fait référence à cette pratique de Hunter S. Thompson, donc d'avoir recopié des livres, et pas uniquement des livres de Scott Fitzgerald ou de Ernest Hemingway, il en a utilisé d'autres, et il est vrai que peut-être que dans l'apprentissage du développement, réécrire, enfin copier manuellement du code écrit par d'autres est aussi peut-être une pratique de certaines personnes qui ont pris le développement. Je ne sais pas si ça a été ton cas.
Oui, parce que dans les années 80, au début de l'informatique, il y avait beaucoup de journaux sur papier. Et notamment, j'avais fait ça dans Jeux et Stratégies, où ils proposaient des programmes, et on les réécrivait intégralement à la main, à partir du listing qui était proposé par le journal. Il y avait Jeux et Stratégies, et puis il y avait un autre journal, j'ai oublié le nom, mais qui était spécialisé là-dedans, qui proposait ces codes-là, et c'est vrai que c'était une bonne source d'apprentissage.
Donc ce code, il n'était pas disponible via, par exemple, une disquette ou autre, c'était vraiment écrit dans le journal, et il fallait tout recopier pour ensuite le faire fonctionner.
Complètement, il n'y avait pas de disquette fournie, il y avait le code. D'ailleurs, dans Jeux et Stratégies, j'ai commencé par des programmes pour calculatrices, et ensuite c'était du basique, le langage de l'époque.
D'accord, bon bah c'est cool en fait, hein. Voilà, donc, alors tout à l'heure tu as parlé du copier-coller, quoi, et la référence avec le nouveau site Libre à vous. Comme on a encore quelques petites minutes, on va peut-être en profiter donc pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices que effectivement l'émission a désormais un site web dédié qui s'appelle libreavoue.org, donc qui est dans une phase de pré-ouverture, c'est-à-dire qu'on vous l'a annoncé, chers amis, la semaine dernière, avant de faire une annonce plus large. Cette phase de pré-ouverture permet de tester le site, de voir s'il y a des problèmes, de nous faire remonter des bugs. Et ce site a été mis notamment en place par 3 bénévoles de l'April, dont Vincent, qui donc a fait notamment le travail important de récupération, d'écriture de script, pour récupérer les pages des émissions consacrées à Libre à vous qui étaient sur le site de l'April, pour les transférer quasiment automatiquement sur le site de Libre à vous, donc passer d'un site qui est géré avec un outil qui s'appelle Drupal vers un site aujourd'hui qui est géré avec un outil qui s'appelle Spip, dont nous parlerons bientôt en détail dans Libre à vous. Donc tu as fait ce travail, Antoine Bardillier a fait le design du site et Jean Galland a fait l'intégration, on va dire, au niveau de SPIP, donc trois bénévoles qui ont travaillé très dur. Je vais juste en profiter, avant de te laisser peut-être une petite réaction par rapport à ce travail-là, préciser quelques fonctionnalités nouvelles de ce site, donc sur libreavous.org. Notamment, le lecteur audio des podcasts permet le chapitrage, donc vous pouvez aller directement à un des sujets. Si par exemple vous êtes passionné par la chronique de Vincent pour le prochain podcast, vous pourrez directement la réécouter. Il y a également le paramétrage de la vitesse de lecture pour ralentir ou accélérer la vitesse de lecture du podcast. Ralentir pour essayer de, par exemple, mieux vous imprégner des propos, plus les comprendre, etc. Accélérer tout simplement parce que si vous avez peu de temps et vous voulez passer moins de temps à écouter, ou si vous êtes atteint, comme certaines personnes, de troubles de, comment ça s'appelle déjà, du déficit de l'attention, et donc il est pour vous nécessaire d'accélérer le débit. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à une émission uniquement par son numéro avec une adresse courte. Donc par exemple, l'émission de la semaine dernière que j'ai animée, qui était au cœur de l'April, qui était la 114. Si vous l'allez réécouter, il suffit d'aller sur libreavous.org/114. Et enfin, vous pouvez commenter et mettre des étoiles. Donc commenter par exemple pour pouvoir apporter simplement votre commentaire ou remarque sur un épisode. Et mettre une étoile pour nous envoyer un petit peu d'amour et d'encouragement. Et c'est important parce qu'effectivement, quand on fait de la radio ou des podcasts, on n'a pas forcément des retours. On n'a pas les gens en face de nous pour voir comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu des témoignages d'amour avec une petite notation, quelques étoiles sur le site. Donc voilà, le site sera officiellement annoncé bientôt, le temps de finaliser un certain nombre de petites choses, même si l'essentiel a été fait. Et donc Vincent, sur ce travail donc de mise en œuvre, toi tu as en fait, en gros tu as scripté, c'est-à-dire écrit un programme permettant en fait de nous éviter de ressaisir les 115 émissions Libre à vous sur le site SPIP. Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots comment ça fonctionne ?
Oui, ben en fait, ce qu'on programme, c'est un script qui va lire les pages web directement, c'est-à-dire qui va lire les pages web sur le site actuel de l'April, et qui va regarder le code des pages web, comme ce que regarde ce code des pages web, c'est ce que transforme le navigateur pour rendre une page web lisible à votre écran. Donc en fait, c'est un langage qui s'appelle le HTML, vous avez peut-être entendu parler, c'est un des langages justement description de page web qui est utilisé. Et donc on le lit, et là on essaye de programmer un petit robot, un peu comme le comme le robot de Google, hein, ce que fait Google quand il indexe un site web, c'est qu'il a des robots qui lisent. Un robot, c'est un programme informatique automatique qui va lire la page et qui va essayer d'en sortir le titre, il va sortir le contenu. Et donc là, on écrit le script, et là, cette opération peut soit très bien marcher, soit pas du tout marcher. Elle peut très bien marcher si, et c'était le cas, heureusement, dans le cas de l'April, s'il y a eu un effort de bonne écriture, de structure de la page web, qui nous permet de repérer l'endroit où il y a les références. Parce qu'il fallait, dans la page web, il y avait par exemple les références de l'émission et puis la liste des personnes participantes. Et ça, il fallait le repérer dans la page web et les séparer. Et donc là, heureusement, c'était bien structuré et donc le script était possible. J'avais fait ce travail sur d'autres sites qui où ça l'était beaucoup moins. Il y a des moments où on peut rien faire du tout parce qu'une page web, ça peut être une soupe de web balise, ça peut être n'importe quoi. Donc ce qui est important, c'est aussi le travail des rédacteurs initiaux qui font un bon effort de structuration de leur information, et parce que c'est là qu'on s'en rend compte que c'était vachement utile pour la suite.
Bah en tout cas, par ce travail initial et par ton travail, effectivement, maintenant la 115e, donc 114e émission, 115e émission peut être intégrée automatiquement. Et ensuite, effectivement, ce sera le site principal. Et il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées à un moment. Peut-être, j'ai suggéré l'idée, par exemple, d'avoir la possibilité de commenter à la seconde près pour la version podcast, ce qui peut être utile parce que, voilà, par exemple, il paraît que SoundCloud le fait. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle application de podcast qui se lançait sur ce thème-là. Donc, de pouvoir commenter directement à la seconde précise, ce qui peut apporter un peu plus d'interactivité et de réaction.
Je pense qu'on pourra ouvrir un site de demandes et de propositions, mais il y a déjà une belle liste, tu nous as déjà préparé une belle liste de choses à faire pour améliorer le site.
Tout à fait, et les personnes qui nous écoutent peuvent évidemment faire leurs suggestions, elles sont les bienvenues, n'hésitez pas à aller sur le site libreavous.org, et si vous nous envoyez un message, il y a un formulaire de contact.
Oui, et, vas-y Vincent. Parfois une très bonne suggestion, c'est de montrer des sites web que vous connaissez et qui que vous trouvez efficaces, qui peuvent être une source d'inspiration. C'est souvent la meilleure chose, c'est de nous donner des sources d'inspiration et des exemples qui peuvent nous permettre d'améliorer l'interface.
Ok. Ben écoute, merci Vincent. Donc c'était la chronique de Vincent Callam, Jouons Collectif. On se retrouve le mois prochain.
Oui.
Et on va continuer à travailler sur le site Libre.
Bien sûr.
Merci à toi. Nous approchons de la fin d'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces d'événements, il y a les rencontres Afrique-France du logiciel libre du 22 au 26 septembre à Montpellier. Plus d'infos sur le site montpellibre.fr. Au Québec, il y a un événement pour célébrer les 18 ans des Linux Meetup, donc des rencontres autour du noyau Linux au Québec. Ça aura lieu le 25 septembre 2021 et ça se fera en visioconférence. Et vous trouverez toutes les informations sur l'annonce sur la page linuxfr.org et avec tout le détail. À Nantes, est-ce que vous avez envie de numérique sans GAFAM, c'est-à-dire sans ces géants du web qui font miam miam avec vos données personnelles? Eh bien, c'est le jeudi 16 septembre 2021 à 8h, à partir de 8h jusqu'au dimanche 26 septembre 2021, c'est à l'Université de Nantes. Et les détails sont sur le site de l'agenda du Libre. Côté April, jeudi 23 septembre, il y a une réunion du groupe de travail sensibilisation, réunion à distance à partir de 17h30, accueil à partir de 17h15. Toutes les informations sont sur le site de l'April, april.org. Côté radio, Cause Commune, allez, je vous fais un peu de pub à quelques émissions, notamment celle qui arrive demain. Donc mercredi 22 septembre à 14h, puis en réécoute, il y aura l'émission Le Monde en question qui fera un retour sur 40 ans de RNB. Excusez-moi. Et toujours mercredi à 21h, puis en podcast, la première de Science et Conscience de Stéphane Manet qui abordera les liens entre éducation et science. Vous retrouvez les infos sur causecommune.fm. Et tous les détails concernant ces événements sont aussi évidemment sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Tiffen Bonnet, Vincent Callam, Jean-Baptiste Kempf. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or. Et notamment pour cette édition, merci à Étienne Gonu qui était aux manettes de la régie aujourd'hui. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Denis-Giraudan, Languin, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Adrien Bourmeau et Quentin Gibault, bénévoles à April, qui découpent le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web April.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour dire qu'est-ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 28 septembre 2021 à 15h30. L'émission sera animée par ma collègue Isabella Vanni. Le sujet principal n'est pas encore fixé, donc ce sera la surprise. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 28 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.
commune. Retour en FM à 21h et retrouvez nos programmes sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris.
Le public américain s'intéresse maintenant vraiment à ce qu'il mange. Tandis que nous mangeons moins parce que nous sommes au régime, chaque bouchée de nourriture, chaque gorgée de liquide devient plus importante. Autrement dit, chaque bouchée doit être délicieuse, différente et éveiller notre intérêt. À ces fins, le coût n'est généralement pas ce qui compte. Trouver des aliments intéressants et, peut-être, servir des repas plus nouveaux qu'une autre maîtresse de maison est devenue la grande passion des Américains. Les cuisines de tout pays et les aliments importés du monde entier nous sont devenus très familiers. De nos jours, toute grande ville offre des comptoirs de sushis japonais, des restaurants éthiopiens et des restaurants thaïlandais. De plus, il nous est possible de nous procurer presque partout plus d'aliments divers et exotiques, importés ou non. Les rayons de notre marchand de vin sont remplis de produits d'importation tels que le vinaigre balsamique et la moutarde pommerie. Il y a au moins 5 excellents